Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Dieu le Père Tout-Puissant. Au cours de l'entretien précédent, j'ai affirmé que la nouveauté la plus révolutionnaire du Concile de Nicée était l'expression « engendrer, non pas créer », utilisée à propos du Christ. Cette expression sous-entend, sans le nommer, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre « engendré par le Père » et non pas « créé par le Père ». Dieu le Père agit donc de deux manières différentes. De toute éternité, il engendre le Fils et dans le temps, il crée tout le reste. Avant d'expliquer les mots « engendré » et « créé », j'ai commencé par rappeler que dans notre expérience humaine, nous distinguons plusieurs manières de produire. La première est la fabrication, un artisan fabrique un objet. La seconde est la création, l'artiste qui peint un tableau ou le compositeur qui écrit de la musique est plus qu'un fabricant, c'est un créateur. La troisième est l'engendrement, un homme et une femme qui conçoivent un enfant ne le fabriquent pas, ils ne le créent pas non plus. On dit d'ailleurs qu'ils sont procréateurs et non pas créateurs, mais ils l'engendrent. Mais nous avons vu aussi que quand on applique à Dieu le verbe « engendrer », on se heurte à une énorme difficulté. En effet, spontanément, nous pensons l'engendrement à partir de notre expérience humaine, et il nous semble que cela ne peut pas convenir à Dieu puisqu'il est esprit. C'est, je l'ai dit, l'objection de l'islam contre l'affirmation chrétienne de la paternité de Dieu, et c'était déjà la difficulté dans laquelle, 3 siècles plus tôt, se débattait Arius. Le Concile de Nicée nous apprendra à penser autrement la paternité de Dieu, et il le fait déjà à partir du premier qualificatif qu'il donne à Dieu, celui de Tout-Puissant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. On peut s'étonner que ce soit cet adjectif qui ait été choisi pour qualifier le Père, alors que le Nouveau Testament en utilise tant d'autres qui paraissent plus beaux et moins problématiques. Père miséricordieux, Père saint, Père juste. Pourquoi Père Tout-Puissant ? Et d'ailleurs, si Dieu était vraiment tout-puissant, y aurait-il tant de choses qui marchent mal dans le monde ? Les guerres, les catastrophes, les maladies, la mort, on pourrait allonger la liste. Quelle drôle d'idée d'affirmer que Dieu est tout-puissant. C'est une question très complexe. Certains préféreront dire par exemple « Dieu tout amour » plutôt que « Dieu tout-puissant ». Mais le problème ne fera que rebondir. Si Dieu est tout amour et nous laisse pourtant souffrir et mourir, soit il est puissant mais sadique, puisqu'il laisse faire le mal qu'il pourrait empêcher, soit il est bon mais impuissant, puisqu'il n'arrive pas à empêcher ce mal. Comment sortir de toutes ces contradictions? Il faut commencer par se demander d'où vient ce mot. Son origine est dans l'Ancien Testament et il est passé dans notre liturgie. On le trouve au début du livre d'Isaïe, au moment où Dieu apparaît au prophète dans le temple de Jérusalem. Je cite le texte au chapitre 6. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur Dieu assis sur un trône élevé. Sa traîne remplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, et ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, toute la terre est remplie de sa gloire. » Vous avez immédiatement reconnu le Sanctus que l'on chante à la messe. Aujourd'hui, on traduit Sabaoth par Dieu de l'univers, et on a raison. Primitivement, Sabaoth est un terme guerrier qui signifie « Dieu des armées ». Mais progressivement, on a élargi le sens à Dieu des armées célestes, c'est-à-dire des étoiles, puis Dieu de l'univers, c'est-à-dire du cosmos tout entier. L'idée est donc que Dieu est le Créateur, mais avec une nuance supplémentaire. Il est celui qui tient et maintient ensemble toutes choses, celui qui donne à l'univers sa cohérence, le maître de tout, en grec le Pantocrator. Et cela non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Dieu est celui qui conduit l'histoire de l'univers et l'histoire humaine vers son achèvement. Mais cela veut dire que la traduction que nous utilisons en français et dans la plupart des autres langues est déficiente. « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Père Pantocrator » ne veut pas dire que Dieu peut tout faire et même faire n'importe quoi, mais que Dieu règne sur l'univers. Plutôt que tout-puissant, il faudrait dire puissant sur le tout. Vous allez me dire que c'est la même chose. Non, car tout-puissant n'est pas un terme relationnel, alors que puissant sur le tout nous montre un Dieu qui reste en relation avec le monde et avec nous. Il n'est pas extérieur à notre histoire, il s'y engage, il s'y implique, il l'accompagne. Comment et par qui ? Évidemment, par son Fils. Ainsi, dire que Dieu est pantocrator ou puissant sur le tout ne serait pas possible si on n'avait pas commencé par dire qu'il est Père, c'est-à-dire qu'il a un Fils. Dans ce mot est contenu tout l'échange entre le Père et le Fils. D'ailleurs, ce mot « tout », puissant sur le tout, est utilisé par Jésus dans des passages clés de l'Évangile. Il dit par exemple « Tout m'a été remis par mon Père », Matthieu 11, 27, ou encore « Tout ce qui est à moi est à toi », Jean 17, 10. Dans ce « tout » sont contenus les disciples de Jésus, l'humanité, le monde entier. Comme l'a écrit saint Irénée, « Lorsque le Seigneur Jésus dit « Toutes choses m'ont été remises par mon Père », de ce tout, rien n'est exclu. Aussi le Christ est-il juge des vivants et des morts. C'est pourquoi, à la fin de l'Évangile, Jésus ressuscité déclarera « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre » Matthieu 28, 18. La toute-puissance du Père n'est donc aucunement une puissance arbitraire ou despotique. Elle s'exerce à l'intérieur de la relation du Père et du Fils qui répond librement et par amour à la mission que lui confie son Père. La toute-puissance du Père n'est pas un pouvoir absolu, c'est une autorité pleine de bienveillance. Reposons-nous maintenant la question, pourquoi, si Dieu est tout-puissant, le monde va-t-il comme il va, c'est-à-dire plutôt mal, et même très mal? La réponse est que ce monde n'est pas ficelé d'avance, mais qu'il est en devenir, et que ce devenir dépend non seulement de Dieu, mais de liberté que Dieu a créée pour coopérer à son projet. Ce sont d'abord les libertés des créatures spirituelles qu'on appelle les anges, et qui sont contenues dans l'expression « univers invisible » qui est dans le credo de Nicée. Les anges ont eu à consentir librement au projet de Dieu, et nous savons qu'ils ne l'ont pas tous fait. Ce sont ensuite les libertés humaines créées en alliance avec Dieu. Elles aussi ont à consentir librement au projet de Dieu, et nous savons qu'elles ne le font pas toujours. C'est enfin la liberté humaine du Fils de Dieu, et nous savons qu'il s'est fait homme pour notre salut. Et nous savons aussi qu'il est celui en qui Dieu a trouvé l'obéissance parfaite qu'il espérait de l'humanité. C'est pour cette raison que Jésus est notre Sauveur, et c'est aussi pour cette raison que c'est par lui que le Père est tout-puissant. Cette expression « c'est par son Fils que le Père est tout-puissant » n'est pas de moi. Elle est d'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, un génie oriental de la même envergure que saint Augustin en Occident. Il s'appelle Origène d'Alexandrie, il a vécu un siècle avant le concile de Nicée. Un proverbe portugais dit ceci, « Dieu écrit droit en ligne sinueuse. » Dieu écrit droit, il sait ce qu'il fait, il ne renonce jamais à ce qu'il a prévu de faire, car Dieu est amour et l'amour ne se décourage jamais. Mais il écrit droit en ligne sinueuse, car ce qu'il veut faire pour nous, il ne le fera pas sans nous. Voilà pourquoi l'histoire du salut est une histoire longue et complexe, tissée des infidélités des hommes auxquelles Dieu répond par sa fidélité et par sa miséricorde. Cette histoire n'est pas encore achevée, mais elle est dès maintenant rachetée. Car en entrant dans notre histoire et en assumant sur la croix notre violence et nos refus, le Christ a déjà remporté une victoire totale et définitive. C'est à juste titre que le Pantocrator, qui est le Père, est représenté dans sa gloire sur les mosaïques et les icônes des premiers siècles. Mais lui, le Père invisible, est représenté sous les traits du Christ, en qui et par qui il règne sur l'univers. Répétons-le encore une fois, et ne nous lassons pas de le répéter, c'est par son Fils que le Père est tout-puissant.